Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Figaro Histoire et Reflet. Au programme, Tous pour un. Et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et le parc national du fjord du Saguenay. Bonne écoute!
Tous pour un texte de Rémi Masson, paru en avril-mai 2023 dans Figaro Histoire. Troupe d'élite et de choc, la Compagnie des Mousquetaires, qui rassemblait des jeunes gens de la noblesse, fut créée spécialement par Louis XIII pour son service exclusif. Indissociable de l'œuvre d'Alexandre Dumas, les Mousquetaires du roi sont nés cependant dans un contexte quelque peu différent de ce 17e siècle fantasmé par l'auteur des Trois Mousquetaires. Les Mousquetaires sont l'une des unités militaires les plus célèbres de l'époque moderne, mais aussi l'une des plus originales en raison de l'étendue des tâches qui leur sont dévolues. Gardes du roi et corps de parade, fantassins et cavaliers, troupes de choc et police politique, ils témoignent, par la variété de leurs fonctions, d'un 17e siècle marqué par les guerres et les violences, qu'elles soient civiles ou politiques. Ils sont parfois eux-mêmes les dépositaires de ces violences dont l'État absolu en construction tend à s'arroger le monopole. Dans l'imaginaire collectif, les mousquetaires ont également été marqués par de célèbres capitaines tels Tréville et surtout D'Artagnan, personnage du roman de Dumas, mais aussi figure historique bien réelle qui reflète les tensions politiques de l'époque. Leur proximité avec le pouvoir royal, incarné par Louis XIII et Richelieu, puis par Mazarin, lors de la régence et la minorité de Louis XIV, les ont jetés en effet au cœur des tensions de la cour et des affaires. Les mousquetaires du roi n'étaient donc sûrement pas des héros insouciants, mais au contraire, les instruments d'un pouvoir royal qui tendait à cette époque à devenir absolu et donc à affermir son autorité. Leur création est d'ailleurs le produit de la violence de ce temps. L'unité naît indirectement de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610. Le geste du régicide qui reprochait au bon roi Henri sa trop grande mansuétude envers les protestants engendre en effet une prise de conscience du pouvoir royal. Celui de la faillite de sa garde qui n'a pas su protéger la vie du souverain. À cette époque, les troupes qui composent cette garde sont réparties dans ce que l'on nomme la maison militaire du roi. C'est au sein de cette institution, encore embryonnaire au début du XVIIe siècle, que les mousquetaires vont être incorporés. Nés dans la violence. Après l'assassinat d'Henri IV, l'édit de Nantes, qui était censé avoir mis un terme aux guerres de religion, est fragilisé par le rapprochement de la France avec l'Espagne, couronné en 1615 par le mariage de Louis XIII avec l'infante Anne d'Autriche, fille du roi Philippe III, deux puissances catholiques qui inquiètent les protestants. Dans ce contexte tendu, la proclamation du rattachement du Béarn au royaume de France en 1617 est le point de départ d'une succession de révoltes protestantes contre le pouvoir royal. C'est l'occasion pour le jeune Louis XIII de prendre la tête de son armée et d'affirmer son autorité sur son royaume en ce début de règne. Mais les opérations militaires piétinent. le roi ne dispose pas à cette époque d'une armée professionnelle ni d'unités réellement faites pour enlever les places fortes derrière lesquelles ses ennemis s'enferment et le défient. Ce n'est d'ailleurs qu'à la faveur de plusieurs semaines de négociations contraintes avec les Huguenots que la paix de Montpellier est finalement signée en octobre 1622. La Compagnie des Mousquetaires du Roi est créée cette même année en pleine campagne militaire. Elle est constituée à partir d'une unité de carabins, cavaliers armés de carabines, une originalité pour l'époque, attachée à la très prestigieuse unité des chevaux légers de la garde, ancien garde d'Henri IV, appartenant à la maison du roi. La Compagnie des Mousquetaires jouit ainsi immédiatement d'une grande publicité et a dès sa création vocation à être un corps élitiste. Le roi n'entend en effet pourvoir la compagnie qu'avec des gentilshommes et seulement quelques soldats de fortune roturiers témoignant de longs états de service parviennent à y entrer. Elle connaît son véritable baptême du feu en 1627 lors du siège de l'île de Ré. Menacée par une flotte britannique qui tente de venir en aide aux protestants de La Rochelle, l'intérêt que suscite la compagnie auprès de la jeune noblesse croît rapidement. Le recrutement est déjà largement effectué au sein de la noblesse des provinces du sud-ouest. Les cadets de Gascogne et du Béarn qui rejoignent les mousquetaires ont alors bien souvent toute leur fortune à faire et peu à perdre en raison du régime de la primogéniture mâle en vigueur dans leur région qui les prive de tout héritage familial. Dès 1634, la petite compagnie est ainsi largement pourvue par la noblesse et apparaît déjà comme une excellente école du métier des armes. Le roi, qui a bien pris conscience de son prestige croissant, décide alors de s'en faire lui-même le capitaine et d'en déléguer le commandement effectif à son lieutenant, qui prend ainsi le titre de capitaine-lieutenant. Cette charge ne doit donc pas échoir à n'importe qui. Le choix de Louis XIII se porte naturellement sur un Béarnais nommé Troisville, dont il apprécie depuis plusieurs années le courage et les qualités d'officier. Troisville a conservé son accent du sud-ouest et se fait involontairement appeler Tréville par ses interlocuteurs à tel point qu'il finit par en conserver l'orthographe. À partir de cette époque, Louis XIII manque rarement une revue de la compagnie et choisit lui-même la plupart des membres de l'unité. Les 100 mousquetaires qui la composent sont dorénavant appelés les mousquetaires de la garde. Destinés à combattre aussi bien à pied qu'à cheval, ils sont armés d'une épée et du fameux mousquet dont ils tirent leur nom. Dès lors, il ne s'agit plus simplement pour eux d'enlever les places fortes en faisant preuve de bravoure, mais d'entrer dans la maison du roi et d'assurer la protection du souverain, enjeu d'une rare importance à une époque où les deux précédents souverains sont morts assassinés. C'est dans ces années-là que les mousquetaires reçoivent, en plus de leur habit rouge, la célèbre casaque bleue aux croix d'argent. Dès lors, les mousquetaires suivent le roi partout dans ses déplacements. Vous écoutez Tous pour un texte de Rémi Masson paru en avril-mai 2023 dans Figaro Histoire. Influence et rivalité. Tréville s'impose progressivement comme un rouage essentiel de la structuration du corps autour du service du roi. Avec lui, le recrutement des mousquetaires devient davantage encore régional, voire familial. La proportion de Béarnais augmente considérablement dans la compagnie. En mai 1640, Tréville y fait entrer son cousin, Henri d'Aramitz, qui inspirera à Alexandre Dumas le personnage d'Aramis. L'ascension rapide et la proximité de Tréville avec Louis XIII lui valent une place de plus en plus importante à la cour, où il fait partie désormais des hommes influents. Une influence telle que le cardinal de Richelieu commence à en prendre ombrage. lui-même menacé par les conspirations, Richelieu obtient, dès 1626, soit 2 ans après son entrée au Conseil du roi, une garde personnelle pour veiller à sa sécurité. Créé sur le modèle des mousquetaires du roi, ayant des attributions similaires vis-à-vis de Richelieu, les gardes du cardinal sont immédiatement comparés aux mousquetaires. La rivalité que leur prête Alexandre Dumas ne tient certainement pas seulement du roman, car les sources témoignent d'une concurrence, semble-t-il, rapide entre ces hommes qui se partagent la garde des deux plus illustres personnages du royaume. Leur rivalité s'exprime parfois par des duels, ceux-ci étant réprimés par le pouvoir royal qui y voit une contestation de ses prérogatives judiciaires. Richelieu s'en sert comme prétexte pour tenter de faire casser les mousquetaires du roi. Il ne peut cependant y parvenir car ces duels sont alors une pratique bien utile pour établir la réputation des hommes de ces deux corps rivaux. C'est d'ailleurs au cours d'un duel qu'un autre fameux cousin de Tréville, Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville, dit Athos, lui aussi mousquetaire, est tué en 1645. La tension entre Tréville et Richelieu atteint son paroxysme après le complot de 5 mars, dernière grande conspiration fomentée contre le cardinal et dans laquelle Tréville est impliqué au moins indirectement. À contre-cœur, Louis XIII fait exiler le Béarnais le 1er décembre 1642, mais Richelieu meurt 3 jours plus tard et Tréville est immédiatement rappelé. Son retour en grâce s'achève cependant le 14 mai 1643 avec la mort du roi, qui suit de quelques mois celle de Richelieu. L'une de ses dernières recrues est un certain Isaac de Pourtaux, dit Porthos, entré aux mousquetaires en cette même année 1643. La mort de leur royal fondateur marque un tournant important pour les mousquetaires qui se trouvent dépourvus d'une partie de leurs attributions. À 4 ans et demi, Louis XIV est en effet encore trop jeune pour gouverner. Il l'est encore davantage pour sortir du Louvre et avoir besoin d'une escorte. La régence échoit donc à sa mère, Anne d'Autriche, qui confirme Mazarin comme principal ministre. Par son influence à la cour, à cause de ses rapports sans complaisance avec Richelieu et surtout après son implication dans la conspiration de 5 mars, qui visait à assassiner le cardinal, Tréville est immédiatement perçu comme une menace par Mazarin. Ce dernier décide ainsi, en 1646, de faire casser la compagnie des mousquetaires, les lettres de cassation invoquant comme prétexte de faire économiser à l'État une dépense des moins nécessaires. Ne pouvant s'approprier les mousquetaires du roi, Mazarin se tourne vers les anciens gardes de Richelieu. Il les nomme à son service pour assurer sa protection en 1648, l'année où débute la Fronde, c'est-à-dire les troubles liés à la minorité de Louis XIV, point culminant de la contestation nobiliaire et parlementaire face à la montée de l'autorité monarchique. En 1646, le plus célèbre des Gascons, D'Artagnan, entre au service de Mazarin comme l'un de ses hommes de main. Charles de Batz de Castelmaur, qui se fait appeler D'Artagnan, est passé par les mousquetaires du roi, sans doute en 1633, mais il a quitté la compagnie avant 1640 et, en l'absence d'archives connues, il est difficile de connaître son parcours militaire entre 1633 et 1646. D'Artagnan témoigne auprès de Mazarin de talents variés. Il est tour à tour pour son maître un soldat, un messager, un observateur, voire un véritable espion, le plus souvent chargé de renseigner le principal ministre sur les menaces qui pèsent sur sa vie ou sur cette noblesse turbulente qui songe parfois à le renverser. Les gardes de Louis XIV. Il faut attendre 11 ans pour que les mousquetaires du roi renaissent de leurs cendres. En 1657, à l'âge de 19 ans, Louis XIV, très marqué par les troubles de la Fronde, décide en effet de rétablir la compagnie pour compléter sa protection et commencer ainsi à étoffer les troupes de la maison militaire qui composent sa garde. Un an plus tard, D'Artagnan lui-même y fait son retour comme sous-lieutenant. Ce moment correspond également à la création d'une seconde compagnie chez les mousquetaires du roi, directement tirée des gardes de Mazarin, dont le principal ministre fait don au roi au crépuscule de sa vie en 1660. L'unité renaît alors telle qu'elle est connue. Les mousquetaires gris et les mousquetaires noirs, ainsi nommés en raison des robes respectives de leurs chevaux, sont regroupés en deux compagnies formant les mousquetaires de la garde. D'Artagnan devient par la suite capitaine-lieutenant de la première compagnie et Colbert Maulevrier, frère du célèbre ministre, commande la seconde, perpétuant ainsi une certaine rivalité entre les deux corps. C'est à cette époque que les mousquetaires du roi deviennent l'une des plus belles troupes d'apparat du royaume, symbolisant la grandeur de Louis XIV et ses aspirations militaires. C'est aussi à ce moment que le roi les voue à devenir une véritable troupe d'élite, comme l'ensemble de sa maison militaire. Les mousquetaires connaissent alors un ensemble de réformes qui visent à restructurer l'unité, notamment en instaurant dans le recrutement un compromis entre jeunes nobles et officiers roturiers ayant de longs états de service. Le roi entend bien leur faire jouer un rôle militaire à la hauteur de ses prétentions martiales. Vous écoutez « Tous pour un », un texte de Rémi Masson paru en avril-mai 2023 dans Figaro Histoire. Des professionnels de la violence. Louis XIV a en effet pris conscience que la guerre et les succès militaires lui seront indispensables pour se façonner l'image d'un souverain glorieux. Pour ce faire, roi de guerre, le jeune monarque a donc besoin d'une armée à la hauteur de ses prétentions. Les mousquetaires sont alors largement utilisés dans les nombreux sièges qu'il entreprend. Leur professionnalisme et leur courage sont éprouvés par le métier des armes, notamment lors des assauts violents qui visent à prendre les ouvrages fortifiés des citadelles. Ils gagnent alors réellement leur statut d'unité d'élite et une véritable réputation de troupe de choc, comme en témoigne leur étendard. Celui-ci représente une bombe tombant sur une ville et s'accompagne de la devise latine « Quo ruit elitum », dont la traduction signifie « là où elle s'abat », la mort aussi. C'est d'ailleurs à l'occasion du célèbre siège de Maastricht, en 1673, que D'Artagnan trouvera la mort en faisant preuve, selon les témoins de l'époque, d'une trop grande témérité. À ce titre, les mousquetaires sont un symbole de la puissance du roi Soleil qui voit la France engagée dans des conflits pendant la plus grande partie de son règne. Les mousquetaires sont aussi des hommes de confiance du roi. C'est ainsi qu'en 1661, Louis XIV charge D'Artagnan de la célèbre arrestation de Fouquet, une mission de confiance qui traduit sa réputation acquise au service de Mazarin. L'arrestation de Fouquet, surintendant des finances devenu bien trop puissant au goût de Louis XIV, marque un tournant important pour D'Artagnan et ses mousquetaires. Gardes du roi et soldats, voilà qu'on leur demande désormais de jouer un rôle de haute police. Car loin de n'être assigné qu'à cette célèbre arrestation, D'Artagnan devient pendant près de 4 ans le geôlier de Nicolas Fouquet, du château d'Angers jusqu'à la forteresse de Pignerolles, où il est finalement enfermé après son procès. Mais les mousquetaires de Louis XIV sont aussi, de manière bien plus méconnue, employés comme une garde politique. Ils sont notamment chargés de missions de répression, là où, dans les provinces, l'autorité royale était remise en question lors de soulèvements contre les agents du roi, ce que Louis XIV ne veut plus tolérer. Le roi a donc un double intérêt à envoyer les mousquetaires éteindre une révolte. En dépêchant directement des troupes de sa garde, il utilise une force armée aguerrie et donne en même temps une image forte de son autorité. C'est un message adressé aux élites provinciales qui vivent loin de la cour et de ses affaires, mais à qui Louis XIV, qui n'a jamais oublié le chaos de la Fronde, entend rappeler sa souveraineté. Pourtant, dès la mort du roi, le déclin de la maison militaire et des mousquetaires est manifeste. Ils sont d'abord victimes de la réaction aristocratique qui s'opère dans ces unités. Les mousquetaires deviennent la chasse gardée de la noblesse qui finit par en exclure les membres d'origine roturière malgré leur valeur militaire. Très éprouvés par les guerres de Louis XIV, les mousquetaires sont aussi progressivement tenus à l'écart des affrontements au XVIIIe siècle. Après avoir brillé durant les guerres du roi Soleil, ils deviennent en effet trop précieux pour être sacrifiés inconsidérément. Ils sont alors gardés en réserve, enfermés dans un écrin dont ils ne sortent plus que pour des revues d'apparat. La célèbre bataille de Fontenoy, en 1745, où ils ont encore l'occasion de se distinguer dans une charge mémorable, fait quelque peu office de chant du cygne. Ironiquement, en raison de ce maintien en réserve, l'unité devient alors impropre au service. Parallèlement, son train de vie élevé et le coût de son entretien engendrent des critiques croissantes, et la monarchie, par souci d'économie et de rationalisation de ses armées, finit par les supprimer en 1775. Ils connaissent leur dernier soubresaut lors d'une éphémère résurrection sous la première Restauration qui suit l'abdication de Napoléon Ier en 1814. Balayée par les Cent-Jours, cette refondation des mousquetaires dure cependant moins d'un an et demi. La troupe n'a pas eu l'occasion d'être l'outil du retour de la monarchie que Louis XVIII aurait souhaité. À ce titre, elle est le symbole d'un temps bel et bien révolu. Mais cette reconstruction avortée témoigne cependant de l'image flamboyante que conservaient les mousquetaires au XIXe siècle, 30 ans avant qu'Alexandre Dumas ne les rende immortels. C'était « Tous pour un ». Un texte de Rémi Masson, paru en avril-mai 2023 dans Figaro Histoire.
Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et le parc national du fjord du Saguenay. Un texte de Yves Hébert, paru dans la revue Reflet en juin 2023. Créé en 1998, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est le seul parc au Québec à préserver un milieu marin exceptionnel. Il s'étend, dans une partie de l'estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay, sur une superficie de 1245 km². C'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer diverses espèces de mammifères marins. Dans ses eaux profondes, la biodiversité marine permet à plusieurs cétacés de se nourrir. Parmi ceux qu'on voit le plus fréquemment, on compte le béluga, le petit rorcal, le rorcal à bosse et le phoque commun. Certaines espèces se voient rarement. Le cachalot macrocéphale, la baleine noire, le phoque à capuchon, l'épaulard et le narval. En collaboration avec Parc Canada et les communautés riveraines, la CEPAC a contribué à établir un territoire de protection du milieu marin. Comme elle le précise, celui-ci comprend toute la partie du lit de la rivière Saguenay située en aval du Cap à l'est, ainsi que la demi-nord de l'estuaire du Saint-Laurent à partir du Gros Cap à l'Aigle en amont jusqu'à la Pointe Rouge, les Escoumins. À partir de l'embouchure du fjord, se profile jusqu'au nord le parc national du fjord du Saguenay. D'une profondeur de 275 mètres et s'étirant sur 105 kilomètres, le fjord est encaissé dans une ancienne vallée glaciaire. Diverses activités de plein air y sont permises. Sur les eaux de cette vaste étendue d'eau, le kayak de mer, le kayak camping, le zodiac et la pêche à la journée et, à la hauteur des caps, la randonnée pédestre permet d'apprécier le paysage contrasté du parc. L'observation de la faune est autorisée dans trois secteurs. Le sentier méandre à falaise dans le secteur de Baie-Éternité est suggéré pour l'observation des oiseaux. La halte du Beluga dans le secteur Sainte-Marguerite permet d'observer ce cétacé. Et c'est dans le secteur de la baie de Tadoussac qu'on aperçoit au loin d'autres Belugas et, avec un peu de chance, le souffle du petit rorqual. C'était le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et le parc national du fjord du Saguenay, un texte de Yves Hébert, paru dans la revue Reflet en juin 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.